états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se sont clôturés la semaine dernière à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. À l'issue des travaux, les participants ont pris plus de 300 résolutions et recommandations. C'est notamment la fermeture des instituts supérieurs et universitaires non viables. Le ministre s'est dit déterminé à appliquer cette recommandation. C'est ainsi qu'il a interdit depuis ce week-end le recrutement des étudiants dans les universités et dans les facultés de médecine sont déclarés non viables. Certains professeurs, cependant, restent sceptiques quant à la mise en pratique de toutes les résolutions et recommandations issues de ces assises. D'après eux, ce ne sont pas les textes qui manquent, mais plutôt une réelle volonté de les traduire en actes. Que pensez-vous de ces recommandations? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 20 septembre 2021. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat professeur Antoine Chimpi, coordonnateur national des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Professeur Antoine Chimpi, bonsoir.
Bonsoir à mes compatriotes.
Professeur Faustin Toengao, professeur à l'université de Kisangani et ancien recteur de cette université, actuellement il est député national. Professeur Faustin Toengao, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique de Nancy en France. Il est également doyen de la faculté de droit de l'université de Kisangani. Professeur Moïla Tiembe, bonsoir.
Bonsoir madame.
Vous êtes très nombreux auditeurs de Radio Capi à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Bruno Kichifar Matata depuis Kananga au Kasaï central. Je salue les résolutions des états généraux de l'ESU car, dit-on, leur mise en application contribuerait à la formation des élites congolaises capables de trouver remède à plusieurs grands défis auxquels le pays fait face. Pour ce faire, le ministre des tutelles devrait avoir un plan assorti au regard de chaque recommandation en vue de permettre aux étudiants inscrits et évoluant dans les 10 établissements de poursuivre leur cursus. Gaëtan Lael, défenseur des droits de l'homme depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Je salue la décision du ministre. Cependant, je me demande si une circulaire du ministre de l'ESU peut abroger un arrêté du premier ministre qui autorise une université à fonctionner avec toutes ses facultés à Kisangani dans la province de la Tchopo. Vous nous suivez sous la 94.8 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiocapi.net.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mwindo Nzangi, a interdit le recrutement des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. C'est ce qu'indique la note circulaire numéro 33, signée le 17 septembre 2021 par le ministre et rendue publique le 18 septembre dans la soirée. Sur base du rapport du Conseil national de l'Ordre des médecins présenté et adopté lors des travaux des états généraux de l'ESU tenus à Lubumbashi du 10 au 14 septembre, argumente le ministre de l'ESU, seules 16 universités sont autorisées à recruter les étudiants en médecine. De quelle université s'agit-il? Les détails avec vous, Richard Junior Kiamunga.
Université de Kinshasa, Université de Lubumbashi, Université de Kisangani, Université catholique de Bukavu, Université protestante du Congo, Université évangélique en Afrique, Université de Kikwit, Université officielle de Bukavu, Université de Goma, Université de Tchoumbe, Université catholique de Kraben, Université Congo, Université de Mbandaka, Université libre des pays des Grands Lacs, Université de Kindu, Université officielle de Mbujimayi. Cette décision est selon le ministre conforme aux recommandations des états généraux relatives à l'assainissement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Mohindo Zangi a instruit toutes les universités non reprises sur cette liste de s'abstenir de recruter ou de programmer un quelconque recrutement des nouveaux étudiants en médecine dès l'année académique 2021-2022. Il ajoute que des dispositions ultérieures préciseront les modalités de réorientation des étudiants des classes montantes des établissements frappés par la mesure de fermeture de la faculté de médecine vers les universités viables appelées à poursuivre les enseignements en médecine.
Merci Richard Junior Kamunga pour tous ces détails. Professeur Antoine Chimpi, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Plus de 300 résolutions et recommandations prises à l'issue des états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire organisés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. D'abord, professeur, que visaient ces assises?
Bonjour et merci madame. Et je salue mes co-débatteurs qui sont également en ligne. Ça fait plusieurs années, madame, en fait, qu'on déplore des problèmes dans notre secteur, l'enseignement supérieur et universitaire, et normalement, des états généraux devraient avoir lieu tous les 5 ans, comme le veut la loi, sauf que dans notre pays, ces états généraux, l'enseignement supérieur et universitaire n'avaient pas eu lieu depuis 25 ans. Et en 96, quand ça avait eu lieu, c'était les états généraux de l'éducation. En fait, dans notre pays en général, il y avait une colonne, si j'ose dire, l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, calculez bien, c'est même 50 ans. Donc, au bout de 25 ans, c'était accumulé des problèmes dans notre secteur que les uns et les autres ont décrié, notamment la qualité de la formation, la valeur des diplômes, les équivalences, plein de problèmes, les antivaleurs, les infrastructures, les conditions socio-professionnelles dégradées du personnel, plein de problèmes. Parce qu'au lieu de faire tous les 5 ans, nous avons fait un état de lieu au bout de 25 ans. On peut comprendre l'accumulation. Donc, toutes les parties prenantes ont été mises en contribution pour réfléchir et les questions étaient très simples. Quel est votre vécu de l'enseignement supérieur et universitaire aujourd'hui et quelles sont vos propositions? Cette question a été posée de façon, j'allais dire, avec une méthodologie bien conduite, j'allais dire scientifique, et ça a concerné pas seulement le personnel de l'enseignement supérieur universitaire, mais nous avons eu des enquêtes sur terrain qui a concerné toutes les provinces de la République. Il y a eu des questionnaires, nous avons réceptionné 26 000 questionnaires et réponses qui ont été colligées à travers tout le pays. Nous avons eu des ateliers, 24 ateliers menés dans des provinces en présentiel pour expliquer d'abord avoir la question et avoir les sentiments de tout le monde.
Professeur Antoine Chimpi, plus de 300 résolutions et recommandations issues de ces assises. Pensez-vous que cela sera mis en application lorsqu'on sait que dans les passés, d'importantes résolutions dans les secteurs de l'essuie avaient été prises, mais aujourd'hui moisissent dans les tiroirs?
330 résolutions exactement. Écoutez, vous savez, madame, il y a deux façons. Nous constatons qu'il y a un problème, où nous ne faisons rien et donc nous continuons de reculer, ou nous tentons de faire quelque chose pour avancer. Donc, si nous allons avec le principe en disant, écoutez, il y a eu plein de rapports avant, qu'est-ce que celui-ci donnera de plus? On ne fait rien, mais c'est la meilleure façon de continuer à s'enfoncer. Nous n'avons pas pris cette option. Nous nous sommes dit qu'il semble avoir une volonté politique actuellement de la part du chef de l'État, qui l'a dit lui-même, président de la République, le Premier ministre l'a affirmé lui-même, et nous avons un ministre des tutelles, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui est déterminé à apporter des solutions. Il ne restait plus qu'à nous, finalement, les concernés, de jouer notre rôle. Nous ne pouvons pas faire la chaise vide. Donc, nous avons pris cette option de dire, nous y allons, prenons notre bâton de pèlerin, consultons tout le monde, cette méthodologie, j'insiste là-dessus, ce n'était pas une réunion de quelques experts dans un coin. Il y a eu des résultats du terrain, de la base, et nous sommes remontés sur les enquêtes, et après, tous ces éléments ont été présentés aux états généraux, devant les experts. Donc, on a fini à la fin intégré les propositions des uns des autres pour aboutir à ces résolutions. Donc, on s'est dit qu'il y a cette volonté, allons-y, et c'est à nous également d'avoir la détermination de faire en sorte que ces résolutions ne restent pas lettre morte, que ça puisse être transformé en action concrète pour améliorer tout ce qui ne va pas dans notre secteur.
Professeur Chimpi, je l'ai dit, plusieurs recommandations issues de ces états généraux, c'est notamment la fermeture des instituts supérieurs et universitaires non viables. Ce n'est pas nouveau ça. Dans le passé, il y a des ministres de l'ESUD qui avaient pris cette décision. Malheureusement, nous connaissons la suite. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois-ci, cette mesure sera appliquée et que ces universités et instituts supérieurs non viables vont respecter la décision du ministre?
Il faut déjà que nous tous, tous les Congolais, toutes les Congolaises, y croient, non madame. Parce qu'il y va de notre survie, de notre pays. Je suis médecin. Au-delà de mon rôle de coordonnateur d'enseignants d'université, je suis moi-même médecin. Je pense que les uns et les autres qui nous suivent en ce moment, si il leur arrivait d'être malade, par exemple, que demain il s'est présenté 2 ans devant un médecin, il souhaiterait tomber sur un médecin qui est bien formé, ni plus ni moins. Et ça, c'est une qualité qui nous a été reconnue à l'intérieur, mais également à l'extérieur pendant de nombreuses années. Mais nous constatons depuis un petit moment que les niveaux de formation ont baissé et ne cessent de baisser. Et on nous le fait remarquer aussi bien en interne, nous-mêmes nous le constatons, mais également à l'extérieur, où lorsque un Congolais s'est présenté avec son diplôme, je ne parle pas que de la médecine, mais également d'autres facultés, mais j'ai pris l'exemple de médecine, c'est très parlant, on reconnaissait la qualité de notre formation et les compétences. Et je peux vous dire que c'est révolu ces temps, où le niveau ne cesse de baisser. Regardons-nous en face, il ne faut pas nous voiler la figure, le niveau baisse, et donc il faut prendre les décisions courageuses. Donc il faudrait déjà que chacun de nous y croit, et que chacun de nous pousse, contribue à ce que ça soit amélioré. Et que demain, c'est l'exposant devant un médecin qui soit pris en charge correctement pour que la vie qui est sacrée, la vie soit préservée. La deuxième chose qui me fait croire, madame, c'est que nous voyons comment nous vivons au quotidien, les difficultés que nous rencontrons pour aller donner cours, dans les conditions sociales, je le disais tout à l'heure, dans quelles conditions les étudiants sont formés, comment sont les salles. Les conditions se sont tellement dégradées qu'à un moment, il faut qu'on rebondisse. Et si notre pays, si nous restons les bras croisés, nous sommes en train de couler. Alors ces éléments-là, en fait, qui sont des éléments, pour moi, c'est dramatique, c'est des éléments en même temps qui me donnent confiance en l'avenir. Me disent, mais pour une fois, au bout de 25 ans, nous avons réussi à nous asseoir autour d'une table, à discuter toutes tendances confondues. Nous avons mis en place, nous avons trouvé des résolutions de façon commune, de façon consensuelle. Maintenant, ce que nous demandons à nos compatriotes qui eux-mêmes ont participé à travers tous les travaux que nous avons eus au préalable, est à nous tous de nous mettre le main dans la main pour que ça réussisse. C'est cette raison-là qui me dit que cette fois-ci devrait être le pont, sinon nous coulons. Et comme personne d'entre nous ne veut couler, alors retroussons-nous les manches pour notre pays.
Depuis ce week-end, professeur Timpi, le ministre de l'ESU a interdit les recrutements des étudiants dans les universités dont les facultés de médecine sont déclarées non viables. Qu'est-ce qu'on entend par faculté non viable pour ces nombreux auditeurs qui nous suivent, qui veulent un peu comprendre cette décision prise par le ministre?
Mais en fait, quand on dit non viable, c'est viable par rapport à quelques critères que doit respecter un établissement ou une faculté par rapport aux missions qu'il entend assumer. Quand on est faculté de médecine, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et c'est parce que c'est de là qu'est partie la note que concerne la note circulaire. Je fais d'abord remarquer que c'est une note circulaire qui vient énumérer les établissements qui peuvent faire des inscriptions à compter de la rentrée académique prochaine. Ça veut dire en corollaire, qui indirectement donc que les autres n'ont pas les droits de faire des recrutements à partir de l'année et la rentrée académique prochaine. Cette note circulaire ne dit pas qu'il ferme telle faculté, cette note circulaire ne dit pas qu'il ferme tel établissement. C'est une nuance importante. Mais une note circulaire vient précéder ce qui peut suivre derrière, c'est-à-dire un arrêté. C'est un temps qui est donné aux établissements qui se sentent éventuellement lésés ou concernés. C'est un temps qui leur est donné pour dire, pour faire leur procédure de recours, par exemple, dire, écoutez, nous on a été oubliés injustement parce que nous pensons réunir les critères qui sont déterminés. Alors les critères, tous les établissements, madame, les connaissent. S'ils ne savent pas, c'est une anomalie. Mais je veux le redire pour quelques critères, parce que pour le compatriote qui nous suivent, une faculté de médecine, par exemple, vous savez, on a cité 16 facultés qui avaient le droit de recruter. J'allais dire 16 sur environ 90. 90 facultés de médecine dans notre pays, ça devient un problème. Encore, si respectait la conformité, on pourrait comprendre. Mais là, ça veut dire 16 sur 90. C'est-à-dire la plupart des facultés ne respectent pas des critères de base. C'est-à-dire, un, avoir au moins un doyen de la faculté qui est professeur d'université.
Deux,
d'avoir un corps académique permanent, c'est-à-dire au moins un corps propre à la faculté. 3 professeurs pour le premier cycle, de première en troisième année, et au minimum 2 professeurs résidents permanents au deuxième cycle. Ça, c'est un critère pertinent. Le troisième, par exemple, c'est avoir un bâtiment, des bâtiments et des locaux propres à l'université, ou à l'institut. C'est des choses quand même pas compliquées. Avoir quatrième point des laboratoires de sciences, il faut avoir une bibliothèque physique ou virtuelle qui contient au moins 500 ouvrages physiques. Il
Merci.
Faut avoir un hôpital, une clinique universitaire.
Merci, bref, professeur Antoine Tchimpi, voilà. Professeur Faustin Toengao, professeur à l'université de Kisangani, ancien recteur de cette université. Actuellement, vous êtes député national. Professeur Toengao, quelle lecture vous faites de l'organisation des États généraux de l'ESU?
Permettez-moi aussi de saluer les collègues qui viennent d'intervenir, le professeur Tchimpi. Il a fait montre de beaucoup de qualités, vraiment je le félicite, parce qu'il a présenté le rapport général des États généraux et j'étais séduit par son art oratoire. Vous me demandez ma lecture sur l'organisation des États généraux. Je crois qu'il faut effectivement saluer le courage et la détermination du ministre actuel de l'enseignement supérieur et universitaire. Au moins lui, il a réussi là où ses collègues ont eu des difficultés pour concrétiser ce vœu, parce que cette matière, l'organisation des États généraux, a figuré dans les programmes des gouvernements qui ont précédé le gouvernement de Michel, de l'acteur premier ministre. Mais ses collègues qui ont précédé n'ont pas réussi. Mais lui, avec un courage exceptionnel, a tenu à organiser les États généraux. C'est à féliciter. Mais seulement, je note, madame, que c'est une activité phare dans le chapitre consacré à l'enseignement supérieur et universitaire. Lorsque vous lisez le programme général du gouvernement Samalukonde, je dirais d'ailleurs que c'est la principale activité. Et en fait, c'est là où on devait en fait définir, comme le ministre a bien voulu dire, redresser, requalifier et innover l'enseignement supérieur et universitaire. Mais c'est ça des matières importantes. J'aurais aimé, et pour éviter justement, parce que vous l'aviez dit, qu'il y a eu plusieurs rencontres par le passé, dans le même sens, et j'ai personnellement participé à plusieurs rencontres dans le passé, mais malheureusement, on s'est arrêté au niveau de la production importante des résolutions, mais ces résolutions sont restées lettres mortes. Mais j'aurais aimé, pour rassurer l'opinion congolaise, rassurer les professeurs, rassurer les étudiants, rassurer les corps scientifiques, les personnels administratifs, techniques et ouvriers et toute la communauté congolaise que cette fois-ci est la bonne. J'aurais aimé, je disais, que le chef du gouvernement et pourquoi pas le président de la République puisse, par la présence de l'un ou de l'autre, donner un signal fort que cette fois-ci c'est la bonne. Parce qu'on a l'impression que ces états généraux ont constitué, en fait, je dis bien, c'est une impression, l'affaire du ministre. Mais on voit quand même les chefs de l'État dans plusieurs activités. On voit le premier ministre en train de distribuer des items d'examen d'État dans les salles de classe, à l'enseignement primaire et secondaire. Mais lorsque le monde universitaire se réunit, lorsque les savants de ce pays se réunissent pour statuer sur l'avenir d'un secteur aussi important comme l'enseignement supérieur universitaire, l'absence...
Vous auriez souhaité voir la présence du président de la République ou du premier ministre à ces assises.
Pour garantir, en fait, la résolution. Parce que déjà, les États généraux ont eu des problèmes. Le coronateur ne le dit pas, mais je pense qu'il aurait pu avoir le courage de le dire. Les États généraux ont eu des problèmes de financement pour que ça se tienne, pour que ces assises aient lieu. Le gouvernement a donné combien? Il aurait pu nous dire un peu ça. Qu'est-ce que le gouvernement a débloqué comme fonds pour tenir ces états généraux? Alors, si ce sont les établissements qui ont contribué pour les assises et que le gouvernement n'a rien fait, mais quand sera-t-il de la mise en œuvre des résolutions ici de ces assises? Je salue la fécondité des collègues. Ils se sont réunis à Lubumbashi, ils ont produit plus de 300 résolutions, vous l'avez dit. C'est un travail énorme, c'est à féliciter, mais le plus important, c'est la suite qu'on doit donner à ces résolutions, et sans moyens, parce que c'est toujours ça le problème, la volonté seule du ministre ne suffit pas. Il en a, effectivement, la volonté des collègues a été affichée, mais cela ne suffit pas. Il faut un soutien, sans faille, du chef du gouvernement, et pourquoi pas de la plus haute autorité du pays pour rassurer l'opinion congolaise que cette fois-ci c'est la bonne. Voilà, sous cette réserve, je crois que le travail qui a été fait est un travail impeccable et nous espérons effectivement qu'on aura à redresser, à requalifier et à inventer. Mais je reste tout de moins inquiet de la manière dont la hiérarchie du pays a assisté avec un silence vis-à-vis de ces travaux. Ça m'inquiète pour l'avenir de ces résolutions.
Alors, professeur Faustin Toengao, parmi ces 300 résolutions, il y a eu notamment une résolution sur la fermeture des instituts supérieurs et universitaires, mais aussi l'interdiction des recrutés des étudiants dans les universités, dans les facultés des médecines sont déclarées non viables. Cette décision du gouvernement a suscité plus de réactions au sein de l'opinion. Qu'est-ce que vous en pensez?
La décision ou la résolution prise aux États généraux et aujourd'hui mise en œuvre par la circulaire du ministre me semble fondée, c'est justifié. Effectivement, c'est dans la quête de l'excellence qu'on est en train de faire cela et je pense que ça mérite le soutien de la communauté nationale. Et moi, j'ai souscrit à ça. Mais seulement, c'est la forme, madame, qui pose problème. C'est vraiment la forme qui pose problème. J'ai comme l'impression que dans notre pays, et on agit plus hein, pour gérer les conséquences d'une situation, alors que gouverner et prévoir. On aurait pu prendre des dispositions bien avant. Et aujourd'hui, on ferme ici et là, et c'est une bonne chose. Mais pourquoi on n'a pas prévenu dès le départ, et pourquoi on n'a pas mené des enquêtes de viabilité? Qui a décidé de la création de ces universités, de ces instituts supérieurs? Qui a décidé de la création de ces facultés de médecine qui sont aujourd'hui déclarées non viables et qu'il faut fermer? Et en fermant, quel est l'avenir des enfants qui ont eu le diplôme dans ces établissements? Voyez, ils ont été réussis. Lorsqu'on dit, par exemple, que le ministre a décidé sur base du rapport de l'ordre des médecins, mais madame, là, ça pose un problème sérieux, un problème sérieux. J'aurais aimé que le ministre puisse agir sur base des organes compétents en la matière. Lorsque vous lisez la loi, il y a des organes de l'enseignement supérieur universitaire qui sont habilités à donner des avis sur ce genre de questions. C'est notamment le Conseil académique supérieur. C'est un organe qui est prévu par la loi cadre, malheureusement, qui n'est pas encore fonctionnel, mais à défaut, il y a des conseils il y a le conseil d'administration des universités qui a compétence justement de donner des avis et de décider de la création des facultés de médecine. Est-ce que ces organes ont été sollicités? Est-ce que leurs avis ont été sollicités en amont avant de créer ces établissements, avant de créer ces facultés de médecine? Est-ce qu'aujourd'hui, en décidant de la fermeture de ces facultés de médecine dans quelques établissements, est-ce que ces organes ont été consultés? Mais on préfère s'appuyer sur les rapports des conseils de l'ordre des médecins qui n'est pas compétent juridiquement en cette matière.
Merci.
Pourquoi on doit aller toujours en dehors de nos textes?
Merci.
Ce sont les textes qui doivent organiser l'avenir de ces pays.
Merci.
Voyez, là, ça pose un problème.
Merci,
alors,
professeur.
Pourquoi n'est pas organisé des enquêtes de viabilité avant d'autoriser le fonctionnement d'un établissement, avant d'autoriser le fonctionnement d'une faculté de médecine dans une université?
Merci, professeur Toengao. On vous garde encore dans cette émission. Le temps pour nous de donner la parole au professeur Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Professeur Moïla Tiembe, vous êtes également doyen de la faculté de droit de l'université de Kisangani. Pensez-vous que ces états généraux de l'ESU étaient importants? Professeur Moïla.
Oui, mais madame, permettez, avant que je ne réponde à votre question, de remercier monsieur le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Kishiba, qui a bien voulu me faire l'honneur de m'inviter à ses assises de l'ESU. Alors, vous savez, madame, le professeur Toengao qui vient de parler, c'est un expert en la matière. Non seulement il a été recteur pendant de nombreuses années, et monsieur Chimpi qui a parlé le premier, c'est aussi un expert de ce secteur. On ne peut trouver à redire par rapport aux propos de l'un et de l'autre, mais Si on sait raison garder, évidemment, ça donne de tournis lorsqu'on présente plus de 300 recommandations ou résolutions. Et quand on sait bien que l'histoire de la République démocratique du Congo et la gouvernance déficitaire de ce pays depuis Belleviret déjà, naturellement, les gens peuvent s'interroger, est-ce que ces résolutions seront appliquées? Mais ça, c'est un autre débat, naturellement. Mais on ne peut pas partir sur le foisonnement de ces résolutions pour dire il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des débats pour y avoir assisté, je peux vous assurer, madame, qu'il y a eu un débat de fond. Librement, le ministre n'a contraint personne à dire ce qu'il avait envie de dire. Nous avons participé dans des commissions différentes et je peux vous dire que la commission à laquelle j'ai participé, qui s'interrogeait sur quelle est la nouvelle conception de l'université du futur en tant que petite et moyenne entreprise au service du savoir et en quête d'investissement, tout le monde était d'accord pour dire que si nous voulons que les résolutions soient appliquées et que la situation universitaire de notre pays change demain, nous devons commencer par changer notre perception de l'université. Le professeur Engel, qui vient de vous parler, est un des bâtisseurs, je peux le témoigner, comme doyen de la faculté de droit de l'université de Kisangani. Beaucoup de recteurs, par-delà leur nomination, par-delà leur soumission à l'ordre hiérarchique au regard des services publics et l'université, ce sont des gens qui ont pris sur le peu de moyens que possèdent encore les universités aujourd'hui pour construire. Et on voit bien que c'est dans cette perspective, effectivement, que nous avons essayé de faire peser ce débat pour dire si demain, au lieu de laisser certains recteurs audacieux engager les moyens minimum de l'université dans la construction des bâtiments, dans l'entretien des bibliothèques, etc., pourquoi ne pas ouvrir le champ de l'université à des investissements directs, étrangers ou nationaux, pour que les services, notamment la restauration universitaire, soient réhabilités, la construction des bâtiments publics de l'université, notamment pour le logement universitaire, le logement des professeurs et du personnel technique, les laboratoires. Tout ceci, madame, soulève la question des moyens que la République démocratique du Congo n'a pas, indépendamment de la volonté du gouvernement d'aujourd'hui et de demain. Si on ne s'adresse pas à l'investissement privé et public, local, national ou international, où l'université est une entreprise de production du savoir, alors en ce moment-là, naturellement, les supputations ou les inquiétudes de ceux qui pensent que, une fois encore, ce ne sont que des paroles, ce genre-là, naturellement, risque d'avoir raison. Mais si tout le monde est déterminé à mettre par-dessus le marché des intérêts personnels, on peut probablement connaître un début de commencement.
Alors, professeur, moi, il en retient que c'était important d'organiser ces états généraux de l'ESU. Le ministre l'a dit au début des assises que cette rencontre, c'était pour réfléchir sur les réformes du secteur afin de le relever, de le redresser, de le requalifier, de l'innover. Quelle serait, selon vous, la cause de la baisse du niveau de l'enseignement supérieur aujourd'hui en RDC?
Évidemment, il y a plusieurs causalités, madame. D'abord, les étudiants que nous recevons à l'université viennent de l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire reçoit les étudiants qui viennent de l'enseignement primaire. Donc, la faille, si faille il y a, commence au début de l'enseignement, c'est-à-dire au début du processus de formation, déjà de la maternelle, de l'école primaire, de l'école secondaire. Nous recevons des étudiants qui ne savent même pas former une phrase avec sujet, verbe et complément. Or, la langue française, jusqu'à la preuve du contraire, étant la langue de l'enseignement dans ce pays, on a des difficultés à discuter, à pouvoir échanger avec nos étudiants. Voilà une des difficultés. Évidemment, il y a aussi le problème des enseignants, leurs conditions de vie. Quand on connaît la précarité ou la fragilité des salaires dans ce pays, on peut bien comprendre les revendications récurrentes des enseignants. Mais il y a aussi le problème de l'équipement. que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, le problème des manuels scolaires qui n'existe pas ou qui existe un peu, le professeur Sinpi ou le professeur Tenga peuvent me corriger, il y a là aussi le problème qui fait que nous recevons in fine au niveau universitaire nombre de nos étudiants, bien sûr il y a une partie de nos étudiants qui ont la capacité pour pouvoir suivre les enseignements au niveau supérieur et même faire la recherche, mais une bonne partie de nos étudiants n'ont pas les capacités intellectuelles nécessaires, ou ils l'en ont, mais ils n'ont pas été encadrés, ils n'ont pas les moyens. Peu de nos étudiants mangent normalement par jour, ça peut vous faire rire, vous faire rire ceux qui nous écoutent. Beaucoup de nos étudiants sont en difficulté, madame.
Alors, non seulement pour manger,
mais pour venir même à l'université. Quand on a les cours à 8 heures, nombre de nos étudiants n'ont pas les moyens d'arriver à l'université à 8 heures pour suivre les cours.
Professeur Moïla,
nous n'avons pas beaucoup de salles de cours pour loger tous les étudiants.
Professeur Moïla.
Il y a là des problèmes tout à fait matériels qui font que, indépendamment de la qualité de nos étudiants, de leur détermination, dans beaucoup de cas, on a des handicaps qui font que même les meilleurs de nos étudiants ne sont pas en capacité de réussir les études universitaires.
Alors, professeur Moïla, vous allez répondre à cet auditeur qui nous appelle depuis Bandundu-Ville. Il s'appelle Jackson. Vous allez répondre brièvement à son point de vue par rapport au thème de ce soir.
Jackson Snaken Makambo, depuis Bandundu-Ville dans la province de Kwilu. Ces recommandations sont louables comme tous les autres textes réglementaires de la RDC notre pays. Car dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire, il y a à boire et à manger. Les universités qui organisaient la faculté de médecine sans une clinique d'application ni un laboratoire adéquat, souvent aussi avec un personnel enseignant non qualifié. Je connais par exemple une institution qui avait un docteur en médecine vétérinaire qui dispensait des cours dans une faculté de médecine humaine. Mais que ça ne se limite pas à la fermeture, mais aussi dans l'accompagnement des institutions par l'État congolais, parce que même ceux qui sont déclarés viables ne sont pas dans les normes internationales. Un accompagnement pour ceux qui ne sont pas viables à les devenir, car cette fermeture amplifiera sans doute le chômage, mais aussi un accompagnement pour ceux qui ne sont pas viables à l'être plus.
Alors, professeur, voyez la brève réaction.
Je pense que le ministre, sur le fond, a raison de prendre la décision qu'il vient de prendre. Je comprends bien la remarque de professeur Tengao, puisqu'il s'agit de problèmes de la hiérarchie des normes. Est-ce au niveau du ministre? Est-ce au niveau du premier ministre? Ça, c'est un autre débat, naturellement. Mais si madame, sous le contrôle de monsieur le professeur Tsimpi, qu'il a été dit clairement que les établissements qui seront fermés, les étudiants ne seront pas victimes de cette décision, qu'ils seront reversés dans des universités ou dans des instituts ou dans des facultés de médecine de campus ou des universités reconnues pour que ces étudiants ne soient pas sur le paillasson. Donc, il faut rassurer tout le monde que, d'après ce que le ministre a dit devant tous ceux qui étaient aux assises, aucun étudiant ne sera laissé sur le paillasson. Il sera pris la décision de le réqualifier, de le remettre dans les établissements, notamment des facultés de médecine reconnues, pour qu'il ne subisse pas le sort malheureux de mauvaises universités dans lesquelles, dans les mauvaises facultés, notamment les facultés de médecine, dans lesquelles ils ont été.
Mais est-ce que nos universités ont la capacité de recevoir tous ces étudiants-là qui vont quitter les facultés qui seront permis?
Oui, madame, on ne peut pas manger les omelettes sans casser les œufs. Je comprends bien que le ministre soit au pilori parce qu'il a pris une décision courageuse, mais c'est à l'État congolais, au Premier ministre, comme disait le professeur Tengao, c'est au Premier ministre, c'est au président de la République, d'engager la décision du ministre qui va dans le bon sens. Tout le monde sait, madame, que ces jeunes gens qui sont formés à la petite semaine en faculté de médecine, si par malheur vous tombez dans ses mains, ce sont des assassins, ce ne sont pas des médecins. Ils n'ont aucune qualification. Il n'y a pas d'assurance que ces jeunes gens sont des médecins pour sauver le peuple congolais demain. Donc la décision du ministre va dans le bon sens. Est-ce qu'il a les moyens pour le faire? C'est à l'État, c'est au président de la République, c'est au premier ministre de décider véritablement d'aller dans le sens de comment rendre cette décision moins dangereuse pour ceux d'abord à qui elle s'adresse, c'est-à-dire ceux de responsables des universités ou des facultés de médecine qui ont été ou qui vont être supprimés. Et là, je rappelle, c'est pour la question que posait d'ailleurs le professeur Pénal, ceux qui ont créé ces universités bidons, on peut les traîner devant les juridictions, les condamner et les mettre en prison, ou le cas échéant, saisir leur bien.
Merci, professeur.
Un peu de patrimoine dans le domaine public de l'État.
Professeur Antoine Chimpi, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
Je suis l'ingénieur Jurès Ilonga Foti. Je vous appelle depuis la province de la Tchop à Kisangani. J'ai salué la décision du ministre de fermer la faculté de médecine dans certaines institutions supérieures et universitaires de notre pays. Mais néanmoins, le ministre doit prévoir aussi la capacité d'accueil d'étudiants dans celles qui sont retenues. Prenons l'exemple de l'université de Kisangani, qui est l'unique retenue dans la Grande Orientale. Avant la fermeture des autres facultés de médecine dans certaines autres institutions de la place, l'UNICI recevait pas moins de 1200 étudiants en G1 biomède et les autres recevaient pas moins de 500 étudiants chacune. Alors, imaginons ensemble aujourd'hui avec la fermeture de cette facilité dans autres institutions. L'UNICI va recevoir combien d'étudiants et avec quelle capacité d'accueil les profs qui n'ont plus droit au droit d'auteur, seront vraiment corrigés plus de 2000 copies d'interro, PPTD et examens d'étudiants. Je ne pense pas.
Professeur Chimpi.
Merci beaucoup. Juste deux, trois petites rectifications. Hein. Les conseils d'administration ont bien participé aux travaux des États généraux. Les conseils d'administration, que ce soit KU, l'université, KUSP, les KUSTAT, y compris les conseils d'administration du privé. Donc, ils ont bien participé aux États généraux, c'est important de le dire. Il y a eu des enquêtes. On n'a pas fait les choses à l'envers. Il y a eu un moratoire par un décret du Premier ministre qui a donné un moratoire des 3 ans, de 2013 à 2014 et 3 ans après, pour que les établissements se mettent en normes. Si vous calculez, ça fait plus de 7 ans maintenant. On avait donné 3 ans. Ça n'a pas eu lieu. Il y a eu un audit organisationnel à l'époque. Il vient d'avoir un audit de viabilité par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire. Puis il y a eu cette enquête pour les facultés de médecine du Conseil de l'Ordre des médecins, suivi des travaux des États généraux. C'est-à-dire ça, je dis ça pour que ceux qui disent qu'il y a de la précipitation, non. Tu vois bien que cette démarche est inscrit depuis un certain temps.
Vous pouvez répondre, s'il vous plaît, maintenant à la préoccupation de l'auditeur.
Les étudiants ne seront pas... Il y a des normes, il y a les professeurs qui... Vous voyez, là, tu parles de qui est en France, il sait très bien que chaque année, là-bas, il y a une planification. Le pays doit déterminer combien de médecins il veut former, combien de polytechniciens, tout ça. On ne peut pas continuer à assister à une prolifération sans limite d'inscription dans les universités du pays. On a dit ça parce qu'on parle que d'une résolution, mais en fait, il faut voir l'ensemble. Normalement, évidemment, les étudiants ne seront pas laissés dans la rue. Hein, donc, selon la catégorie des facultés où ils se trouvent actuellement, où la faculté ne remplit pas les normes, ben, cette faculté sera fermée et il y a une procédure pour que les étudiants n'en pâtissent pas. Le but n'est pas de pénaliser les étudiants, le but est de s'assurer la meilleure formation possible. Et il y a des critères minimums. Les établissements qui ne seront pas fermés, mais qui ont des critères de viabilité, mais incomplets, ben, il y a des formules pour que ces facultés soient parrainées. Il y a une procédure de parrainage qui est proposée, qui soit en quelque sorte endossée à une faculté viable pendant 5 à 10 ans, selon les éléments qui seront trouvés, afin de permettre à cette faculté qui est en défaut, de s'améliorer pendant ces temps-là. Et puis donc, vous avez des facultés qui remplissent le minimum de conditions. Normalement, ces critères, c'était 100%. Vous voyez, on a ramené au minimum à 60% des critères pour tenir compte de l'aspect contextuel, l'aspect local chez nous, mais ça ne doit pas être au détriment de la qualité. Il faut que nous arrêtions, j'ai fini par là, il faut que dans notre pays, qu'on arrête de marcher sur des anomalies et qu'on finisse par valider les anomalies. Non, ça ne doit pas être comme ça. Et la remarque de François Twengao était tout à fait pertinente quand il dit il faut d'abord qu'on ait des critères de viabilité avant d'autoriser. Parce que jusque-là, n'importe qui pouvait ouvrir une institution, un établissement, et il demandait son autorisation après. Ça, c'est une anomalie gravissime.
Merci.
Donc là, dans les résolutions, on propose que justement, c'est que le professeur Tenga vient de dire, c'est que d'abord, qu'il y ait l'autorisation doit être conditionnée par des critères de viabilité, on vient, on constate, et c'est seulement après qu'on donne l'autorisation pour démarrer les activités. Et ça nous évitera effectivement ces écueils. On arrive à des instituts qui ont plein d'étudiants et nous faisons des choses à l'envers et nous nous posons maintenant des questions où nous allons caser les étudiants, où on doit faire, voilà. Il faudrait que dans l'avenir qu'on corrige cela.
Merci professeur Chimpi, professeur Toingao. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani.
C'est Ougan Mungwaju et Gabriel depuis Kisangani, province de la Tchopo. La décision du ministre Mouido Zangi est sage, voire même courageuse, dans la mesure où un moratoire de 3 ans avait été accordé à ces universités de s'y conformer à la norme. La personne censée avoir la responsabilité de vie humaine ne peut pas être formée n'importe où, n'importe comment et par n'importe qui. D'ailleurs, ces 16 universités sont encore nombreuses. Et il faut réduire que le ministre puisse faire le suivi de sa décision afin que ces universités qui naissent comme des boutiques soient rigoureusement au contrôle de l'État.
Professeur Toingao, brève réaction.
Merci madame. Je note d'abord avec satisfaction que beaucoup de questions viennent de Kisangani, ce qui est important ici à souligner, c'est très bien. Alors, j'aimerais, sans polémiquer, j'aimerais dire à mon collègue, heureusement qu'il a compris que les enquêtes de viabilité ne doivent pas se faire en aval, mais c'est plutôt en amont, avant de créer une université, un institut supérieur, avant de créer une faculté. C'est là où on doit procéder aux enquêtes de viabilité. Parce que si on doit continuer comme ça, on crée d'abord et après on doit gérer les conséquences. La même cause doit toujours produire le même décès. Voilà, là, nous sommes bien compris. Non, moi je suis d'accord avec le ministre, je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est, en fait, moi je suis inquiet. Je suis inquiet lorsqu'on doit fermer les facultés de médecine qui ont déjà produit des milliers des médecins qui n'ont pas été bien formés, on les suppose, sinon on ne fermerait pas ces facultés, mais ils seront là, dans la société. Mais de potentiels assassins, parce qu'ils vont continuer à gérer, à nous gérer sur le plan de la santé, et ainsi de suite. Mais que deviennent-ils ces médecins-là? On va les laisser comme ça, ou on va mettre en place un mécanisme de mise à niveau de tous ces médecins qui ont été produits par ces facultés de médecine non viable. Ça m'intéresse beaucoup. Pour le reste, en fait, on va gérer les conséquences. Le ministre, voilà pourquoi j'ai...
Qu'est-ce que vous proposez?
Chef du gouvernement, voyez, s'assume, parce qu'on ne doit pas abandonner la question
au
ministre de l'enseignement supérieur.
Professeur Toingao, qu'est-ce que vous proposez?
La tâche du gouvernement.
Alors, professeur Toingao, qu'est-ce que vous proposez? Ça sera votre conclusion en 30 secondes.
Voilà. La décision est prise, nous ne revenons pas, mais je tiens à ce que dans l'avenir, qu'on sache que la création d'une université d'institut supérieur relève de la compétence du Premier ministre, chef du gouvernement, par décret du Premier ministre. Et que ce n'est pas le ministre qui doit créer, il n'en a pas compétence au terme de la loi en vigueur aujourd'hui. Et je tiens aussi à ce que pour la situation qui est créée aujourd'hui, nous soutenons notre ministre, c'est une décision salutaire, mais il faut des mesures d'encadrement. Des mesures d'encadrement, d'abord des médecins formés dans les facultés fermées, que deviendront-ils? Quelle sera leur considération de la société? Il faut leur mise à niveau pour qu'ils continuent à opérer. Et ensuite, que le gouvernement s'investisse suffisamment pour développer les capacités d'accueil des facultés restantes, les 16 au total, qui doivent accueillir des milliers de candidats qui viendraient des autres universités ou facultés fermées.
Merci, professeur Toingao. Professeur Moïl, en 30 secondes, votre conclusion.
Oui, je pense que, pour parler comme d'un scientifique, la pratique est le seul critère de vérité.
Merci, professeur Moïla, professeur Chimpi. Votre mot de la fin.
Merci à mes compatriotes avec qui on a échangé. En tout cas, ce que je demande, c'est vraiment un souhait auprès de tous ceux qui me suivent, c'est que notre secteur ne va pas bien. Et donc, lorsque nous avons à prendre des mesures, il faut que nous gardions un peu de calme, que nous lisions ce qui est proposé et que nous nous mettons tous ensemble pour relever ce que vous avez dit tout à l'heure, requalifier et innover dans notre secteur. Il y va de l'intérêt de nous tous.
Merci, professeur Chimpi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté, Dona Madimba, Michel Outeté, sous la supervision de Martin Sebujangwe qui m'ont aidé à préparer cette émission. La mise en onde était assurée par Dieudonné Nyangasa, présentation et coordination Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.